Hey, yo, this is the narcissist, the Euphrates, nomadic massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Hello and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next 30 minutes. This week we'll feel like nature lovers and talk about the birds, the trees, and the recyclees. We'll first turn to the sky again this week, not for a total solar eclipse though. Instead, we'll be on the lookout for thousands of sandhill cranes returning to the Buckley Valley in British Columbia. Summer's not far ahead.
They're a long-lived bird. The oldest one, I think, was about 37 years old. Yeah, it's a, it's kind of a neat bird that way. They, like Canada geese, they mate for life. The pairs stick together for a long time, and if one dies, they will remate.
Then to Toronto, which is celebrating 65 years of the Sakura tree donations by Japan, or cherry blossoms. The blooms are at their peak this month in Toronto parks.
In Japan, I had the opportunity to enjoy hanami parties, and hanami is essentially means flower viewing. Japanese, whether they're groups of friends or groups of co-workers, would gather underneath the trees as they're in blossom, eat and drink and sing, and it's a very festive time of the year.
And finally, we'll move out east. Since April 1st, New Brunswick consumers who return their beverage containers have been getting their full deposit back, doubling the cash payout on a bag of cans. Erica Butler heads down to the Wheaton All-in-One Redemption Center in Sackville to witness it all. Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Thanks for keeping us company. The sound of thousands of sandhill cranes are trumpeting across the sky on sunny days in the Skeena region of northern BC marks the unofficial beginning of spring. The incredible bird is one of the largest flying birds in North America. This is an ancient bird, and when you hear their call, you can't help but stop and look up. They migrate in flocks, and by the time they make it to the Skeena region, they are entering the last hump of a long journey on their way to the Yukon and Northwest Territories. Though this is a BC story, you can likely hear and see them wherever you are because they can be found across Canada. Pamela Hassan in Smithers, British Columbia, spoke with wildlife biologist Sean Sharp. He's familiar with the sandhill crane as he spent many springs enjoying their way through the region. He talks about the sandhill crane's lifespan, habits, and unique anatomy, which allows for a clear, loud call. Listen to the audio to hear the sandhill crane yourself.
Ah, the sound of spring. The sandhill cranes are soaring in the thermals above us right now, trumpeting their call and alerting everyone in the Skeena region to stop and look up. These beautiful cranes are among the largest of North American birds, standing over 1 meter tall, and they have a wingspan of about 2 meters. What makes the sandhill crane unique is that they are ancient birds. Over thousands of years, they've evolved elaborate courtship rituals and a wide array of vocalizations. The flight behavior of cranes differs from that of swans and geese. During migration, which is largely by day, and during sunny weather, flocks of a few to several hundred birds frequently spiral upward on thermal updrafts, glide or flap for a distance, then spiral upward again. When flying in straight lines, they use a V formation, and distances between rest stops average about 250 kilometers, while their flight speeds range from 20 to 80 kilometers per hour, depending on wind speed and direction. The crane's snapping upstroke and slower downstroke distinguishes them from other long-legged, long-necked birds. Here in British Columbia, we usually see these cranes only during migration. The age-old crane migrations through our province follow the same routes, use the same rest stops, and occur at the same time each year. Right now, we are lucky enough to enjoy the call of the sandhill cranes. And today I'm speaking with a wildlife biologist, Sean Sharp, for a little bit of information about the anatomy of these birds, the uniqueness of their call, and also best places to see them in the Buckley Valley.
Hi, well, my name is Sean Sharp, and I'm a biologist, wildlife biologist, and I've been living in the Smithers area on and off since about 1995. And worked at a whole range of things, everything from for the provincial government through private consulting, which I do these days.
Now, we're talking about sandhill cranes today, which I'm very excited about. And we seem to start to see them around, you know, like early to mid-April. What part of their migratory journey are we catching them at?
They're one of the bigger, more obvious migratory flocks of birds that we see. And they spend their winters down in sort of Texas and Mexico and some of the southern states. And they come all the way right up to the Northwest Territories from here and all across Canada and even into Siberia. So they have quite a journey, and they tend to come about the time that the wetlands are opening up in the north. So they start just at the edge of things. Like if you go about 2 hours north of here, there's still not much open water. It's mostly frozen. So they're kind of pushing the envelope, if you like, most years.
Typically, how many would we see passing over us in Smithers?
In Smithers area, we could see tens of thousands. You know, in flocks, just a few days ago, there were well over 1,000 birds in the flock. And it's interesting because the flocks are usually collections of families, like the young birds from last year hang out with the parent birds right up until they reach their migratory grounds for the summer. And then they split up but they often don't, the young ones don't breed for probably 5 to 7 years after. So they don't breed the next year. They're not like some of these smaller birds.
So what's the typical lifespan of a sandhill crane?
They're a long-lived bird. The oldest one, I think, was about 37 years old.
Wow.
So, yeah, it's it's kind of a neat bird that way. They, you know, like Canada geese, they mate for life. You know, they're the pairs stick together for a long time, and if one dies, they will remate. But they make this journey every year for most of their lives. And the biggest threat they seem to face really is just wetland habitat, both here and in the south. So they were endangered and quite threatened in the 60s, but have recovered significantly. And I think the last estimate I saw is they were increasing about 4% per year.
When I hear their call, I'm like, I can hear it from inside my house without the windows open. So that beautiful trumpeting sound, is that one of the louder bird calls, or is there something special about their anatomy that allows the sound to travel so clearly?
Yeah, actually, they do have kind of a neat anatomy. Their trachea, like the wind, the pipe that lets the air in, basically, mm-hmm. They have an extra long one that actually can distend into the stomach region a bit, and it lets them get sort of that deeper resonance, and they even get some kind of harmonics and overtones, and that's part of the really spooky sound of their call. But it's a neat bird that way. I don't know if you've ever seen them on the ground and when they're mating that, but they do this incredible dance. Like they jump around and dance and really kind of neat. Their, you know, wings flapping and their heads pumping up and down, and very energetic looking.
Oh, that's really cool. Where would they typically mate?
Basically, they mate all across North America in the north, so all of northern Canada, and most every province, I think. I can't remember if they're in all of the eastern. Yeah, I've seen them in Nova Scotia, so they go right through, and then right up into the Northwest Territories, Nunavut, and the Yukon.
If you wanted to spot them, where would be a good place to sit and wait to see them landed, not necessarily flying?
Mm-hmm. Well, the spot where most of us have always kind of headed up to watch them is up the Kispiox Valley, just various, some of the farmlands and pasture lands through that area. They tend to settle down in there as a big stopover. Occasionally, even here, I've seen them just west, just sort of off of the fields as you head out of town heading west. But the most reliable place seems to be up the Kispiox Valley, a few of the big farms. And if you watch them in the evenings, they do these big spirals on the thermals in front of the mountains and then often kind of descend into the fields nearby just to rest.
What's the coolest fact or your favorite thing about sandhill cranes?
Well, I just think they're such a harbinger of spring. I mean, the fact that, you know, when you hear that sound, you know, spring is here. It's not They often have mixed flocks too. So we see a bunch of other things flying with them, like snow geese and and, you know, even occasionally swans will be mixed in with the big flocks that are flying overhead. So it really is like, oh, the gate is burst. They're heading north.
Thank you so much, Sean, for speaking with me today.
Oh, you're most welcome.
Hello, I'm Candace Vetter in Embrun, Ontario, and you're tuned into Viewpoints. Follow us on X at Frequency News. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
The City of Toronto has announced that the Sakura trees or cherry blossoms across Toronto will be entering full bloom mid to late April. This bloom marks 65 years since their introduction to the city. Not many of us know or remember that in 1959, the trees were given to Toronto as a gift from the Japanese ambassador, his name was Toru Hagiwara, for helping relocate Japanese Canadians following the Second World War. Since then, multiple donations have been made under the Sakura Project. Over 3,000 trees were planted across Ontario from 2000 to 2012 when the project ended. These trees can be admired in High Park, but also in Cedar Ridge Park, Trinity Bell Woods Park, and Woodbine Park. A full list of the sites can be found on the City of Toronto website. Owen Thompson has been keeping his eyes open for that picture-perfect moment by first having a chat with James Heron, who has been the executive director of the Japanese-Canadian Cultural Center in Toronto for the past 24 years.
What is the cultural significance of the cherry blossoms or the sakura trees?
I guess the sakura is kind of a considered kind of a national flower and certainly a national symbol of Japan, is particularly meaningful because, you know, it marks the beginning of spring and with that a sense of renewal after the winter months.
When it comes to these sakura trees, for anybody who's not too familiar with them, what's so special about them blooming?
Of course, you know, they're aesthetically, they're, you know, it's quite beautiful. But I think, you know, from a Japanese perspective, I think it's kind of the ultimate manifestation of a fundamental concept called mono no aware, which I think plays a big part in the Japanese psyche and in terms of the way that the Japanese sort of aesthetic sense. And that mono no aware sort of means evanescence, or, you know, the impermanence and transient nature of things. And so for sakura, again, is a perfect manifestation of that idea, because they only bloom for, you know, maybe 4 to 10 days a year. When they reach the height of their beauty at full bloom, then they fall away. And that impermanence, I think, particularly to the Japanese mind, I think really amplifies the beauty of the sakura and makes the experience of seeing sakura that much more precious.
When was the first time you ever saw a sakura or cherry blossom tree be in full bloom?
You know, I went to Japan in 1986. I lived there for, I guess, about 11 years. And I'll be honest with you, it wasn't something that was really on my radar before I went to Japan. But when I got to Japan, I got there in February, and the plum blossoms, which are the blossoms that come out before the sakura, were coming out in Japan, and it was, again, quite spectacular. And that's when I came to understand the importance of the sakura blossom in Japan. And then, again, in my first year there, I, with a number of friends, had the opportunity to enjoy hanami parties. And hanami essentially means flower viewing. So that's when Japanese, whether they're groups of friends or groups of co-workers, would gather underneath the trees as they're in blossom, eat and drink and sing. And it's a very festive time of the year.
Toronto has had these trees for a while now. So with the, you know, Canadian context, why is it important for Canadians to go out and see these and have their own hanami parties, which I think people just go out and have picnics under?
You know, I couldn't really say why people have become so much more aware of the importance of the cherry trees. You know, I know certainly that the nature of Toronto has changed, you know, and since I was a boy, you know, it's become much more multicultural and much more, and people are, I think, much more aware of other aspects of the other cultures that we share the city with. So I think probably, you know, quite naturally, it came to the fore in terms of people's imaginations.
Hmm. Yeah, because these trees are now, it's kind of almost like a tourist destination or a thing to do in the city, especially after the long winter or long. My understanding is that the weather in Japan it gets rather humid very quickly, and the winters don't last as long as Canada. For example, here, I believe it was snowing up until very late into March. So seeing these trees can be, I imagine, as you mentioned, is a symbol of kind of spring coming.
Yeah, and of course, the sakura bloom earlier in Japan because it's a warmer country, so it'll be happening later in March and early April. But it's kind of interesting because again, there's people are so aware of the cherry blossom that in Japan there's something called the sakura zensen, which is like a zensen is like a weather term for a front. So we would say, you know, like so there's the sakura zensen is essentially the front of cherry blossom blooms as they move up from the south of the country, which is warmer, up through, you know, up to Hokkaido. So, you know, you turn the news on any given night, and it'll sort of say that, you know, in Kyoto, the trees are now reaching full bloom, and so it's tracked in Japan in the same way as weather might be tracked here, certainly at that time of the year.
So when it comes to Canadians who may or not be kind of aware of, you know, as you mentioned, hanami parties or doing these picnics, you're someone who has kind of had experience with that. For anybody that wants to kind of go and enjoy the sakura trees in, I guess, a more of a kind of a culturally traditional way to Japan, how would someone go about setting up and enjoying something like a hanami party?
Well, you know, it can be as simple or as complicated as someone wants to make it. You know, I've been to, you know, hanami parties in Japan where, you know, everyone's eating and there's lots of sake and beer, et cetera. And someone's brought a karaoke machine and set up a huge tarp to keep everyone dry, you know, to sit on. But I think, you know, basically, if you can just find a nice Japanese bento, try to find a quiet space with some friends and sit down and enjoy a bento lunch and look at the trees. That's really all you need for a hanami. I mean, I'm not going to suggest that anyone take sake with them because I'm not sure whether, I guess right now there are certain parks where you're allowed to enjoy an alcoholic beverage, but you know, sake and beer in Japan would certainly generally be part of that experience, but not 100% necessary.
Speaking actually of parks, so High Park is kind of famously the first instance of cherry blossom trees here in Toronto. But the Japanese Cultural Center actually also has sakura trees. Are those available for viewing for the public?
Yes. Well, it's, you know, the Japanese Canadian Cultural Center is a public space, you know, in terms of our grounds. Right now we have about 100 trees. A number of them were gifted to us through a project that the consulate ran, the Japanese consulate ran in the early 2000s, called the Sakura Project. To those trees, we recently received a gift from Shiseido Canada, who planted an additional 70 trees. Yeah, people are certainly welcome to come and visit. Our trees, a lot of them were only planted in the last couple of years, so they are a little bit delicate, but we welcome everyone to come and see them. We're actually in the process as well installing a new irrigation system, so that you know, one of the challenges is to keep the trees healthy through the hot summers, etc. So we've invested in a sprinkler system so that the trees will survive for many, many years.
To make sure that these trees remain, you know, fine, especially for the delicate ones, what are some things people should be avoiding doing to the trees?
You know, we always just sort of say, you know, please take home, you know, memories in either your in either your mind or in your camera or your phone. But you know, don't pull blossoms off the trees. Don't break off branches. Try not to touch the trees. I mean, they're not sequoias by any stretch. So they can be a little bit delicate. So yeah, see, but don't touch.
Just to kind of touch back on when your time in Japan, how long were you in Japan for?
I was in Japan for 11 years.
11 years. So when you came back to Canada after obviously seeing these soccer trees for 11 years, and then coming back to Canada, when you see soccer trees bloom now, are you brought back to your time in Japan?
Yes, certainly. And in fact, you know, I think one of the advantages of as many soccer trees, and how so many spectacular sakura vistas in Japan. When it comes to hanami, you know, Japanese parks, you know, tend to fill up with a lot of people. They're, you know, as much as you want to be communing with nature, you know, there's very good chance that there's could be someone very close by and enjoying their sake or their karaoke or whatever. So one of the things that really surprised me in coming back to Toronto is you know, how much space and how much quieter the spaces were, because you know, hanami really wasn't I came back 25 years ago, but hanami wasn't a popular thing here in Toronto. So I kind of got to wander out into High Park, where there wasn't a lot of people necessarily enjoying their sort of hanami picnics under the trees. There are people there looking at them, but it was a very nice experience.
I guess from when you came back to Toronto till now, I guess, what's been the biggest change with Toronto's viewing of the sakura blooming?
Well, I think a lot of it, too, is that, you know, there's been a lot more effort. There are either the consulate, private individuals, to create sakura spaces at different parks around the GTA. So I think there's a lot more sakura to enjoy. I think that's very significant. So not only has the awareness increased, but also access to beautiful spaces filled with sakura have increased as well exponentially, I would say, in the last... If it's something that your listeners haven't done, I would strongly recommend going out and having a hanami party with friends or simply wandering under the trees and enjoying a hanami experience. It's a very very deeply connected to Japanese culture, and it's certainly something that anyone can I think, enjoy deeply.
Thanks to Owen Thompson. And to close the show, we now head east down to Wheaton's All-in-One Redemption Center in the Sackville Industrial Park to see how they are faring with the new rules that make consumers eligible to get back the full deposit on beverage containers. That's because since April 1st, New Brunswick consumers who return their beverage containers have been getting their full deposit back, doubling the cash payout on a bag of cans and bottles. That means that in the months leading up to the change, people were holding back, waiting for the refund increase. Darren Whedon says volumes at his redemption center have doubled since April 1st, but he's waiting to see what will happen to redemption levels before making any increases to the staff. On location in Sackville, New Brunswick, here's Erica Butler.
The cans and bottles have been piling up quickly this month at Wheaton's All-in-One Recycling Depot in the Sackville Industrial Park. Since April 1st, consumers who return their beverage containers have been getting their full deposit back, doubling the cash payout on a bag of cans and bottles. That means that in the months leading up to the change, people were holding back, waiting for April 1st. CHMA dropped by Wheaton's to find out how the depot is faring now that New Brunswick has embraced a full deposit return.
I am Darren Wheaton, the owner of Wheaton's All-in-One Recycling and Redemption Center, I guess.
All right. So April 1st was a big change.
Yes.
What did you guys notice the first couple of weeks here?
Well, you know, it's like a lot of people were holding off bringing in their bottles so they could get that extra 10 cents, or extra nickel, sorry, because it went up to 10 cents. So a lot of people were holding that for the last 2 or 3 months. And so then they all, of course, come in at once. And as you can see, we're a little backed up right now.
There's a lot of bags out front here and everything.
Yeah, I mean, some of that's because we ran out of bags to sort them into, which they're coming tomorrow. So we do fall behind. That put us behind 3 days, I guess.
Yeah. Was it logistically challenging to, you know, have people be holding off for those 2 or 3 months? Like, were you, did you notice a big, I guess, gap in your business?
Oh, yeah. We noticed, like, definitely the sales, I guess, were down. But, I mean, we knew that they would be up again in April, so it's been try to budget.
I guess you've been doubling the money that you put out, but you know you're of course getting the same. I mean, you're getting the same amount when you bring those back, right?
Yes. Yeah. We still get the same percentage. I think we're getting a small raise, but it hasn't gone. I don't know, think it's gone through yet. But it's like, you know, 16th of a cent type thing.
What kind of numbers did you see come April 1st?
Probably 3 times the amount that we normally would get, almost post COVID levels when we opened up again. But
so, and on an average day then, how, like, you know, I guess how many thousand cans do you get?
About 80,000 cans a week, 80,000 to 100,000 cans.
Wow.
Right now, before that, before this, it was maybe 35-40. It varies too.
Yeah,
depending on what's going on.
So you expect that will go down now?
I've give it another month or so. People get used to it and everyone falls back into their old habits.
Yeah. One reason they might be doing it is to actually increase the amount that people return as opposed to throwing away.
Yeah, that was the idea behind it, for the government anyways.
Yeah. Do you think it's having an effect?
It's hard to say, like I said, right now, because of most of our stuff we feel is coming in just because everyone is hoarding it for a while. We won't know if it's actually increased for maybe once we get through this rush of stuff.
All right. Give people an idea of what the rate changes were.
Well, basically everything went up a nickel. So you now get your 10 cents for pop bottles and cans. Pop bottle cans, wine bottles went up. Your general wine bottles, like anything over 501 milliliters, is now 20 cents for glass. But everything else is 10 cents. So I guess.
That's Darren Wheaton of Wheaton's All-in-One Recycling on Industrial Drive in Sackville. Although it seems as though the new full deposit return system is a benefit to consumers, it turns out it's not as much of a boon as it seems. Under the old system, the half of the container deposit that didn't get returned to consumers was used for 2 things: to cover the handling fees for the containers and to fund the province's Environmental Trust Fund, which spends $8 to $9 million per year on basic environmental programs like watershed monitoring. The province of New Brunswick has not announced how it will replace the funding for the Environmental Trust Fund, but there is a system in place to cover handling fees, a new per-unit container recycling fee, which is completely non-refundable. In some cases, the new recycling fee will actually be higher than the increase in deposit return that consumers get as of April 1st. And unlike the beverage container deposits, the container recycling fees will not appear on store receipts. In fact, in an agreement struck with the province and industry group NCOR, which operates the program on behalf of producers, the new container recycling fee cannot appear on receipts and must be included in the product price.
And that's it for us at Viewpoints. Our journalists this week were Pamela Hassan, Owen Thompson, and Erica Butler. Our national editors were Maureen McEwen and Victoria Fenner. Viewpoints is brought to you by the Community Radio Fund of Canada. I'm your host and producer, Boris Chassagne. Thanks for taking some of your time to stay with us this week. And until the next, ciao.
film Carnaval raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est arraché de son île et déposé sur cette planète très étrange appelée Canada.
On oublie tout et on recommence.
Il s'agit d'immigration, oui, mais il s'agit surtout de garder son cœur, son âme et sa culture au plus profond de soi, malgré les douleurs que peut provoquer ce déplacement soudain.
S'il te plaît, mamie, je vais aller au Carnaval avec toi.
On vous invite à venir voir Carnaval, un film d'Henri Pardo, au cinéma dès le 3 mai.
Get ready! The legendary Barris Hammond returns! Saturday, July 27th, inside L'Olympia Concert Hall, downtown Montreal. This is an early evening show, so bring your mother, auntie, sister, and granny. We're all going to see Uncle Barris. Doors open at 6:30 p.m. Early bird tickets on sale now at BarrisHammondMontreal.com. Barris Hammond, Saturday, July 27th, live in Montreal.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. L'année 2024 marque les 110 ans de l'anniversaire de naissance de feu Marguerite Duras. Nos journalistes Marine Autogali et Julia Chénu n'ont pas laissé passer la nouvelle sans réagir. Madame Duras, qui est célébrée comme il se doit aussi au Canada, à Toronto, le TIFF présente plusieurs de ses films.
Je l'avais en tête depuis des années et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit il n'y a pas un grand public pour les films de Marguerite Duras, ils sont trop expérimentaux. Et là, l'année dernière, j'ai fait une rétrospective sur Delphine Seyrig et on a présenté India Song et c'était salle comble avec un public très jeune, enthousiaste.
Et à Halifax, la comédienne Maud Andrieux adapte pour le théâtre le roman Le Vice-Consul.
Duras, elle cherche dans son écriture et dans son travail cinématographique, c'est ce que je fais moi au théâtre, dans une boîte noire de la scène, c'est de faire travailler le spectateur. Que le spectateur ne soit pas passif, qu'on ne lui prémâche pas le travail. Elle veut laisser la place au spectateur de se faire sa propre idée, son propre imaginaire.
Son œuvre littéraire est immense, mais là, on peut voir et écouter l'œuvre de cette grande dame de la littérature, l'une des plus étudiées dans les écoles du monde entier et figure de proue du féminisme moderne, peut-être malgré elle. Bienvenue à Point de vue, l'info locale et la culture internationale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Merci d'être encore avec nous cette semaine. Une fois n'est pas coutume, cette semaine à Point de vue, on verse dans les arts de la scène, le 7e art et la littérature. On passera un long moment en compagnie de nos journalistes Marine Autogali et Julia Chénu et leurs invités pour plonger au cœur de l'œuvre de Marguerite Duras, romancière, scénariste, réalisatrice française. Les films de Marguerite Duras sont en visite à la Cinémathèque du TIFF à Toronto. Marguerite Duras, on le sait, est davantage connue pour son œuvre littéraire que pour son travail cinématographique. Mais Andrea Picard, commissaire à la Cinémathèque du Festival international du film de Toronto, le TIFF, propose au public de découvrir son œuvre sous un autre angle jusqu'au 24 avril et à travers 17 projections. La Cinémathèque du TIFF présente les films que Duras a réalisés au cours de sa carrière, ainsi que les classiques pour lesquels elle a écrit les scénarios. Parmi les 19 films qu'elle a réalisés, India Song est certainement le plus connu de Marguerite Duras. Les films qui prennent l'affiche donc à la Cinémathèque du TIFF seront d'ailleurs introduits par d'anciens collaborateurs de Duras, tels que Bruno Nuiten, directeur de la photographie, et la monteuse Dominique Auvray. De Toronto, voici Marine Autogali.
Andrea Picard, vous êtes curatrice de la rétrospective de Marguerite Duras qui est donnée au TIFF en ce moment. À quel point c'était difficile par rapport à toutes les rétrospectives que vous avez déjà pu faire?
Je peux dire honnêtement que c'était un des plus difficiles à faire dans toute ma carrière. C'est une réalisatrice qui a une œuvre très impressionnante, mais aussi très méconnue. Et il y a vraiment un manque de matériel. Donc, ces films n'étaient pas présentés en Amérique du Nord. Donc, pour la plupart, il n'y a pas de sous-titres anglais non plus. Et il y a des copies d'archives qui sont assez fragiles. Il n'y a pas de DVD. Donc, pour faire toute la recherche, pour vraiment voir les films, elle a fait 19 films. J'avais vu 5 films avant. Donc, c'était une grande recherche internationale. Je me suis posée sur mes amis français, sur des files piratés même. Donc, c'était une grande recherche.
Combien de temps, globalement, ça prend pour faire une rétrospective qui dure presque un mois ici ?
Exactement. Donc, on présente 17 séances. Donc, c'est une rétrospective assez grande. Je l'avais en tête depuis des années. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit il n'y a pas un grand public pour les films de Marguerite Duras. Ils sont trop expérimentaux. Et là, l'année dernière, j'ai fait une rétrospective sur Delphine Seyrig. Et on a présenté India Song. Et c'était salle comble avec un public très jeune, enthousiaste. Et je savais que il y avait une traduction de ses écrits sur le cinéma qui allait être publié et traduit en anglais. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment de le faire. Donc, ça a pris, je dirais, environ 7 mois, 8 mois.
J'ai vu 2 invités notables pour cette rétrospective, Dominique Ouvray et Benoît Nuiten. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du choix des invités et de ce que vous aimez de leur apport dans l'œuvre de Marguerite Duras ?
Je pense que parce que les gens, ils ont un peu peur de ce cinéma et c'est un personnage mythique, Marguerite Duras, un peu l'intellectuel. Je pense que c'est assez intéressant d'avoir des gens qui ont travaillé avec eux, qui ont connu la personne, l'artiste, le côté littéraire, mais aussi qui ont travaillé sur le film pratiquement. Donc Bruno Nuiten, c'est un des grands chefs-op. Il a travaillé avec Godard, avec plein de gens. Et il a travaillé sur 5 films de Marguerite Duras. Donc il a bien connu et lui, il a fait ses origines avec elle. Et Dominique Ouvray, c'était sa monteuse. Elle a fait 3 ou 4 films ensemble et elle a fait 2 documentaires sur Marguerite Duras aussi. Donc on aura des témoignages, des anecdotes et oui, je pense que c'est assez important de faire ça sur une œuvre intimidante.
C'est un bon mot, je trouve, intimidant, et avoir des techniciens et des techniciennes, c'est une belle approche. Quelle est justement, vous, votre approche de Marguerite Duras ? Comment vous l'avez découverte et comment elle vous a accompagnée dans votre carrière de cinéphile et de programmatrice ?
Une bonne question. Moi, j'ai toujours adoré les livres. Donc, je connais les essais. Je sais qu'elle a fait une édition de Cahiers du cinéma, Les yeux verts, que j'ai adoré. Donc, j'ai adoré ses écrits sur le cinéma. Et je vais avouer quelque chose d'assez gênant. Moi, j'adore le tennis. Elle était super fan de tennis. Donc, moi, j'ai un côté godardien aussi. Elle a adoré le tennis. C'est Roland Garros, Serge Danet, l'amateur de tennis. Et Marguerite Duras, elle a cette passion aussi. Donc, elle a beaucoup discuté avec Godard et Serge Danet sur le tennis. Et lorsque j'ai commencé, j'ai vu India Song il y a longtemps. Et il y avait des moments où il y a des références au tennis. Et ensuite, j'avais vu, quoi d'autre ? Le Camion. Que j'adore ce film, Le Camion. Pour moi, c'est un des très beaux films. Et qui est cité dans... Sauf qu'il peut la vie de Godard. Donc vraiment, Godard et le tennis et la littérature, c'était mes entrées vis-à-vis de Marguerite Duras.
En travaillant sur cette rétrospective, qu'est-ce que vous avez appris de Marguerite Duras et qu'est-ce que vous avez envie que les spectateurs et les spectatrices apprennent de Marguerite Duras avec cette rétrospective ?
Premièrement, que les films, ils sont incroyablement beaux. Ils sont très beaux à voir, les images, ils sont magnifiques, mais c'est un cinéma très, très sensuel. Donc il y a ça, mais aussi il y a le côté du fin du monde. C'est vraiment urgent. Elle a beaucoup parlé du fait qu'il y a un manque de révolution et pas assez d'amour dans le monde. Et dans tout ce qui se passe dans le monde maintenant, je trouve que c'est un cinéma très important qui nourrit l'imagination, le côté sensuel, les idées. Donc c'est pas elle était contre le cinéma du supermarché, elle disait. Donc c'était pour faire penser le public, et en voyant tous ces films, c'est l'amour fou, c'est la fin de tout. Et avec tout ce qu'on entend dans les nouvelles, maintenant, je pense qu'il y a un rapport très fort.
Bruno Nuiten, chef opérateur des films de Marguerite Duras, venait présenter certains de ses films et a pu mettre en lumière les méthodes et les relations de travail de cette illustre figure intellectuelle. Il présentait notamment les films de la trilogie de Anne-Marie Streeter, La femme du Gange, India Song, et il crie son nom de Venus dans Calcutta désert. Certaines étaient des restaurations et d'autres projections en 35 mm.
Est-ce que c'est un sentiment différent de montrer une version restaurée d'un film dont on a fait les images?
Bon, la restauration, c'est pas que... C'est une chose absolument indispensable, puisque tout ce qui est argentique, contrairement à ce qu'avait promis Kodak ou les fabricants d'argentique et les laboratoires en termes de conservation, tous les négatifs sont morts, quoi. Les années 70-80 sont en train de mourir, quoi. Donc si on les scanne pas, si on les numérise pas, ça va disparaître. Donc j'ai eu la chance que Monsieur Tchalgachev, qui était le producteur du film, participe à la restauration d'India Song. Le film, le négatif était dans un tel état qu'on a dû recomposer des plans, quoi.
Comment on fait ?
Ah bah doubler des images, on a dû refaire entièrement des plans, quoi, qui étaient moisis, qui étaient, enfin c'est terrible, hein. C'est presque intéressant parce que c'est comme de l'archéologie, quoi. On a l'impression de voir d'ouvrir le tombeau de, je sais pas, d'un Égyptien d'un autre siècle. Donc c'est assez passionnant, ça coûte beaucoup d'argent. Et dans India Song, ce sont des plans fixes très longs qui tournaient légèrement. C'est-à-dire qu'on les sentait pas tourner, mais l'image faisait un tout petit peu ça, quoi. Ce qui participait à l'effet magnétique des plans fixes comme ça, d'autant que le sujet, le propos s'y prêtait, quoi. Et je trouve qu'on a perdu ce charme-là, quoi.
C'est rare d'avoir un directeur de la photographie qui participe à la restauration, j'ai l'impression, ou peut-être pas. Est-ce que c'est
indispensable?
C'est indispensable. Ah bah voilà, parce que je me disais en vous écoutant que...
Et si les chefs opérateurs sont encore vivants, il faut vraiment les inviter à participer à faire ça. Chose que beaucoup de maisons de production ne font pas, de peur qu'on les emmerde, parce qu'on va dire « moi je voudrais faire ceci, ce, ça ». Et puis en plus, théoriquement, on est payé pour faire ça. Honnêtement, je me suis vraiment conformé au souvenir que j'avais de ce qu'on avait produit avec Marguerite. D'autant que quand j'ai fait la restauration, Marguerite était morte, hein. Donc j'ai fait ça tout seul, dans le respect de ce qu'elle avait vu et voulu.
Et vous, au moment d'India Song, puisqu'on parle de ce film-là, mais à quel moment vous étiez...
C'est un des premiers films sur lesquels... Enfin, j'avais déjà fait des films avant. Parce que quand j'ai fait India Song, je venais de faire Les Valseuses, qui était mon premier film dans le en tant que directeur de la photo dans le contexte du cinéma professionnel, disons. Donc avec Marguerite, je me suis retrouvé un peu dans la même veine, c'est-à-dire que on cherchait ensemble et on trouvait ou on trouvait pas, mais souvent on trouvait, et surtout il fallait que je traduise constamment son langage d'écrivain en langage technique, ce qui était un peu compliqué, d'autant que j'étais pas non plus un technicien affûté, donc c'était compliqué, quoi. Mais c'était compliqué, mais c'était délicieux à vivre, parce que chaque jour, il y avait des questions auxquelles il fallait trouver des réponses, mais qui étaient pas du tout d'ordre technique, elles étaient un peu aventureuses, quoi. Et puis après, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la façon dont Marguerite réagissait aux visions des images qu'on avait faites, quoi. Elle se racontait une autre histoire encore. De toute façon, dès qu'elle voyait un truc, tout ce qu'elle pouvait voir lui racontait des histoires. Donc c'était extraordinaire. Parce que quand elle voyait ses propres rushs, elle se mettait en position de spectateur qui commence à imaginer autre chose que ce qu'il voit. Enfin, c'était très passionnant, quoi. Mais c'est unique, hein. Moi, j'ai jamais vécu ça avec aucun metteur en scène, en dehors de Marguerite. Donc on est resté sur ce travail de recherche, en fait. C'était une recherche constante, mais qui prenait pas beaucoup de temps. En plus, c'était plutôt silencieux. C'est-à-dire qu'elle disait des choses, puis moi je proposais des choses, et puis à un moment donné, c'était ça, quoi.
Le fait d'avoir justement pas le son sur le tournage, est-ce que ça a différencié ça des autres tournages? Est-ce que ça vous a apporté une simplicité en tant que...
Dans la musique, ça c'est sûr, hein. On n'était que dans la musique et dans l'espace. C'est-à-dire que comme c'était des plans fixes, moi, je collais deux Chatterton dans l'angle de la caméra pour qu'elle voie à quel endroit les comédiens sortaient du champ. Donc, je faisais des angles comme ça de vision de la caméra. Et donc, elle guidait ses comédiens en fonction de ça, quoi.
Ça permettait une plus grande liberté.
Ça permettait de diriger les mouvements de danse, d'autant que ce n'étaient pas tous des grands danseurs, et qu'ils soient plus ou moins dans le champ ou pas dans le champ, mais enfin, au moins elle avait conscience de ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de retour vidéo, hein. On ne pouvait pas voir ce qu'on filmait, il n'y a que moi qui pouvais le voir.
Marine, qui verse comme nous dans la culture par les temps qui courent, écoutez son dernier reportage sur la metteur en scène de 97 ans qu'elle a pu rencontrer dans la ville Rennes. On l'appelle Madame Paulette Collet, docteur en littérature canadienne-française. Retrouvez-la sur fréquenceinfo.ca.
Bah oui, oui.
Tant, tant, là, là, si vous l'avez fait, je sais combien. Reprenez. Cette comédie-là, c'est duré. Relevez-vous. Et puis là, ils vont s'arrêter. Il y aura un arrêt. Et vous pouvez prendre votre temps. Ah non, cette comédie-là, c'est duré. Vous vous levez.
Ah non, ah non, en voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple.
Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, elles sont à 1800 km de distance, mais nos journalistes Marine Outogali et Julia Chenu partagent un même intérêt en décortiquant à leur manière l'œuvre de Marguerite Duras. Donc, le 23 mars dernier, la comédienne et metteuse en scène ou metteur en scène Maude Andrieux s'est rendue dans une salle intimiste du Bus Stop Theatre à Halifax pour adapter et interpréter au théâtre le roman Le Vice-Consul dans le cadre du mois de la francophonie. Maude Andrieux nous parle donc de la pièce qu'elle interprète et bien sûr de sa grande passion pour les œuvres de Duras, qui l'accompagne d'ailleurs depuis des décennies. Elle est au micro de Julia Chenu en Nouvelle-Écosse.
Bonjour Maude Andrieux.
Bonjour Julia, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
On se voit aujourd'hui parce que vous avez représenté l'œuvre de Marguerite Duras intitulée Le Vice-Consul. Alors c'est une pièce que vous avez l'habitude de jouer, mais on sait que chaque représentation est quand même différente. Comment vous avez apprécié cette venue ici à Halifax ?
C'est toujours un plaisir. J'avais eu la chance de venir pour la toute première fois il y a 2 ans. On avait joué au Neptune Théâtre il y a 2 ans, La Douleur de Marguerite Duras, et on avait adoré. Moi, je voyage avec ma directrice de production, Sophie Duteil, et on avait eu un coup de cœur absolu pour Halifax. Précédemment, on était à Toronto et Ottawa. Là, c'est pareil, cette tournée-là, en 2024, on fait les mêmes villes. Et Halifax, on s'était dit, il faudra absolument qu'on revienne. Donc, on était ravis de revenir à Halifax pour la ville, mais aussi pour l'accueil spectateur, extrêmement chaleureux. Cette fois-ci, on a donc joué dans un théâtre un peu différent, plus intimiste, celui du Bus Stop Theatre, avec beaucoup de bonheur, parce que moi, j'aime bien jouer dans des petites salles. Les petites salles permettent un côté intimiste, une proximité, qui sont très agréables pour le jeu d'acteur, pour sentir aussi le spectateur, sa sensibilité, son ressenti, savoir si je ne suis pas en train de les perdre. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. Le théâtre était plein. C'était très agréable de jouer dans cette proximité-là où, en fait, l'espace scénique, le premier rang est sur l'espace scénique, en fait, dans ce théâtre que vous connaissez certainement. Donc voilà, il n'y a pas de distance avec le public et c'est vraiment très agréable.
Et alors, ce public de Halifax, comment est-ce que vous l'avez senti ?
Écoutez, très bien, j'avais un public suspendu dans cette teinte des années 30 à Calcutta, puisque c'est le thème du vice-consul se déroule là-bas. J'avais vraiment une écoute merveilleuse, une écoute absolue. Alors les sous-titrages, le sous-titrage en direct permet bien sûr de suivre la pièce. Comme c'est une atmosphère vraiment de mousson, de lenteur, d'étouffement aussi, hein, du milieu de l'ambassade de France, des microcosmes comme ça étouffants et confrontants. Ça se fait tout ça dans une grande lenteur. Et le vice-consul, c'est un texte qui perd un peu le spectateur. C'est-à-dire que Marguerite Duras, elle fait exprès de perdre son spectateur, de lui faire ressentir cet état dans lequel on se trouve quand on est dans un pays où il fait des chaleurs extrêmes, des 40 degrés au soleil, 45 degrés, la mousson, donc la moiteur, la fatigue, un état un peu transitoire, un état un peu second, dans lequel nos perceptions de nos sentiments, de ce qui se passe autour de nous est un peu biaisé. Donc en fait, l'écriture elle-même est faite de façon un peu à nous perdre. Alors ça, on le précise au début de la pièce, on dit au spectateur, Sophie explique, Sophie Dutheil qui m'accompagne, explique au spectateur de se laisser aller en fait, de ne pas penser, si vous êtes perdu, elle leur dit, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que vous êtes dans cette immersion, vous êtes transporté dans cet univers flottant. Voilà. Donc, je crois que ça a bien fonctionné. J'ai eu la possibilité, après le spectacle, de discuter, de faire un bord de scène dans le théâtre avec certains spectateurs qui sont venus me voir. Et c'est toujours extrêmement enrichissant parce que le ressenti de chacun est différent. Parce que Duras, elle cherche dans son écriture et dans son travail cinématographique, c'est ce que je fais moi au théâtre, dans une boîte noire de la scène, c'est de faire travailler le spectateur. Que le spectateur ne soit pas passif, qu'on ne lui prémâche pas le travail. Elle veut laisser la place au spectateur de se faire sa propre idée, son propre imaginaire. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant et c'est pourquoi moi, ce travail-là, depuis bientôt 20 ans, à adapter les romans de Marguerite Duras pour la scène, me plaît particulièrement. Voilà, c'est-à-dire que chacun va avoir son ressenti. Et c'est très pertinent à chaque fois. C'est-à-dire que tout le monde a raison, tout le monde a compris, en fait. C'est un chemin particulier et intime que chaque spectateur vit avec le texte qui lui est livré sur scène.
On la sent, cette passion dans votre voix pour Marguerite Duras, qui est quand même une grande auteure française. Et c'est une passion qui remonte à très longtemps, à vos débuts, lorsque vous étiez au Conservatoire dramatique de Bordeaux. Et quel a été un peu ce déclic? À quel moment vous vous êtes dit « il faut que je travaille sur Marguerite Duras, il faut que je représente ses œuvres »
Alors, c'est arrivé peu après ma sortie du Conservatoire. Moi, j'avais déjà le désir, en tout cas, en tant que toute jeune comédienne, de plutôt m'investir dans des textes d'auteurs engagés. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Donc, je travaillais dans un théâtre, le TNT Manufacture de Chaussures, avec Gilbert Thiberguien à Bordeaux à l'époque, donc c'est les années 2000. On jouait les pièces de guerre d'Edouard Bond, enfin des textes plutôt engagés. Et en fait, l'écriture de Marguerite Duras, je l'ai rencontrée peu après, lors d'un voyage au Vietnam que j'ai fait en 2003. Et je suis allée dans des lieux où les gens ont souffert. Dien Bien Phu, la cuvette de Dien Bien Phu. Pour moi, c'était une ligne dans les livres d'histoire. On n'en parlait pas tellement. J'avais pas tellement d'infos. Donc, je me suis renseignée là-dessus. Je parlais bien sûr de la colonisation française et de ses déboires. Pour ce point final, en fait, de la bataille de Dien Bien Phu en 1954, le printemps 54. Où il aurait fallu bien avant se retirer, mais voilà, malheureusement, l'armée et l'État de l'époque en ont décidé autrement. Et à partir de là, c'est là que j'ai lu Un barrage contre le Pacifique, qui est le texte finalement le plus autobiographique de l'œuvre de Marguerite Duras, qui est très brut et qui raconte son enfance au Vietnam et au Cambodge, en Indochine, jusqu'à l'âge de 18 ans, hein, puisqu'elle naît au Vietnam à Dia Dinh, à côté de Saigon, en 1914. C'est pour ça que cette année, on fête les 110 ans du RAS, en 2024. Et elle va y grandir jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, elle a vraiment... C'est toute son enfance, son adolescence. Elle passe son bac en vietnamien, au lycée Chasse-Louloba, en français et en vietnamien. Enfin, c'est une culture qu'elle a épousée. Donc, la France est très, très loin d'elle, où elle raconte les abominations de l'administration française à l'époque, qui touche aussi sa mère, malgré qu'elle soit blanche, mais c'est une femme seule qui élève trois enfants. Le père de Marguerite Duras est mort d'une maladie tropicale quand elle avait 4 ans. Donc c'est une femme qui se retrouve seule avec trois enfants à élever, et on la met dans des postes de brousse très reculés au Cambodge, enfin on ne veut pas en entendre parler. Elle achète des terres avec les économies qu'elle a, et elle pense pouvoir cultiver ses terres en plus de son métier d'institutrice. Et son idée, c'est de construire des barrages contre le Pacifique pour pouvoir cultiver ses terres et que les paysans autour d'elle puissent avoir un minimum vital. Leurs enfants meurent Et elle, ça lui est insupportable. Et donc, sans arrêt, sans perdre d'espoir, elle va construire puis reconstruire ses barrages contre le Pacifique, sauf que ça ne fonctionnera jamais parce que l'administration française lui a vendu des terres incultivables qui sont annuellement envahies par la mer. Mais c'est un grand texte pour l'espoir sans cesse renouvelé qu'elle réussit à donner aussi aux paysans, aux locaux qui l'aident. Il y a une véritable entraide. Bah, l'idée d'un monde meilleur, quoi. Tout ça, ça a vraiment beaucoup marqué Marguerite Duras, qui après s'est engagée dans le Parti communiste français et qui pensait que, oui, en faisant ensemble, on réussirait à avoir tous la même chose, à égalité. De là découle un engagement féministe aussi, et qui, moi, me touche particulièrement à travers ces textes. Et c'est là qu'ils sont évidemment très modernes et toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une musicalité dans l'écriture de Marguerite Duras et des images très fortes, qui crée des moments véritablement cinématographiques, on le voit sur scène. Même les gens qui apprennent le français nous disent on a les images, on accède à des images très visuelles de ce qui a lieu, en fait, avec ses suites de mots, ses inversions de mots, ses répétitions de mots.
Cet engagement de Marguerite Duras, qui est effectivement assez connu et reconnu, est-ce que le public, quand il vous fait part de ses retours parfois, le comprend, cet engagement? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience de la part du public que Marguerite Duras était une femme engagée, une prise de conscience des combats et des défis qu'elle dénonce?
Je pense oui. Je pense en effet que le fait de jouer ces textes à haute voix, sur scène, donne accès à cet engagement d'une femme. Voilà, c'est très fort. J'ai des gens qui sont venus me dire j'ai essayé de lire Marguerite Duras. Mais ça me tombe des mains, je n'accède pas à son écriture, je n'y arrive pas. Et là, le fait de l'entendre jouer à haute voix, j'ai accédé à quelque chose, j'ai compris quelque chose, je suis entrée. Et elle le dit elle-même, hein, elle dit « mes textes sont faits pour être dits à haute voix ». Ce point d'accroche de cet auteur qui me parle, mais qui m'a pas parlé à la première minute forcément, hein, sauf un barrage contre le Pacifique, oui, j'ai pris une claque littéraire. Mais là, en l'occurrence, le texte que je joue au Canada cette année, Le Vice-Consul, il a fallu que je le lise 3 à 4 fois pour vraiment en saisir le sel véritable. Et l'engagement, et ce qui était dit de cette inhumanité d'un microcosme de privilégiés qui est le monde de l'ambassade de France. Voilà.
Merci encore, Maud Audrey, pour cette entrevue. Bon retour, bonne continuité de tournage, et puis de tournée, pardon, et puis bon retour ensuite en France pour le repos. C'était Julia Chenu. Merci encore, Maud.
Merci à vous.
Ce n'était donc ici qu'un extrait de cette fantastique conversation qu'entretenait Julia Chenu avec Maud Andrieux. Doublez votre plaisir sur fréquenceinfo.ca. Voilà, c'est déjà tout pour nous. Merci de nous avoir tenu compagnie cette semaine. Nos remerciements à nos deux journalistes, Julia Chenu à Halifax et Marine Otogali à Toronto. On vous rappelle que l'émission Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. On espère que l'émission vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao. We'll be right back.
Louis Castel.